n'est pas bien. Paisible, à la fraîche, décontracté du gland.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça.
Merci pour la bonne nouvelle.
Principe Actif, le mix des cultures.
À Paris, 13h, à Beyrouth, 14h30, à Téhéran et 6h à Washington. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une de ce journal, la guerre au Proche et Moyen-Orient fait toujours rage. Frappe massive en Iran, des Américains et des Israéliens. L'État hébreu continue de bombarder le Liban également. La République islamique réplique en Israël et dans le Golfe. La capitulation n'est pas envisageable, répond le président iranien à Donald Trump. Son pari était risqué. Il est en passe de l'emporter haut la main. À 35 ans, le populaire rappeur devenu maire de Katmandou, Balendra Shah, a été élu lors des législatives de jeudi au Népal et s'affiche désormais comme le probable nouveau Premier ministre du pays. Nicolas Roca nous attend à Katmandou dès le début de ce journal. En fin du rugby, le 15 de France dispute son 4e match dans le tournoi des 6 nations contre l'Écosse. Aujourd'hui, un match décisif, nous dira Cédric De Oliveira. Mais avant de revenir sur la guerre au Proche et Moyen-Orient, direction donc le Népal. Les résultats des législatives tombent au compte-gouttes. Le rappeur devenu maire de Katmandou, Balendra Shah, l'emporte dans sa circonscription. Nicolas Roca, bonjour.
Bonjour Karine.
Vous êtes en direct de Katmandou pour avoir les résultats de l'ensemble des circonscriptions du Népal. Il faudra attendre un peu, mais l'issue du scrutin ne fait plus aucun doute, Nicolas.
Oui, clairement, la tendance elle est irréversible. On assiste à une vraie vague en faveur du RSP, la formation politique derrière Balendra Shah. Cet ancien rappeur de 35 ans a su surfer parfaitement sur le mouvement de la génération Z qui exigeait la fin de la corruption et le départ de la vieille garde politique. Tout un symbole, il affrontait dans son bastion électoral l'ancien Premier ministre du pays, celui qui a été contraint à la démission en septembre, K.P. Sharma Oli, 74 ans, considéré comme responsable du bain de sang dans la répression des manifestations qui a fait 67 morts. Et là, comme partout dans le pays, le résultat est sans appel. La jeunesse l'a emporté. Balendra Shah pourrait disposer d'une majorité aux 2/3 au Parlement. C'est du jamais vu depuis les années 60. Malgré cette victoire, celle d'une formation qui a mobilisé bien au-delà de la génération Z, pas de célébration. D'abord parce que ici le décompte prend du temps. Il faut déplacer les bulletins depuis les zones montagneuses. Mais surtout parce que le parti de Balendra Shah a demandé à ses candidats de limiter les effusions de joie par respect pour les morts des manifestations.
Nicolas Roca en direct de Katmandou. La guerre au Proche et Moyen-Orient à présent. Aucun répit constaté sur l'ensemble des fronts. L'armée israélienne a lancé une nouvelle vague de frappes sur l'Iran, à Téhéran. Plusieurs quartiers ont été visés, à Ispahan aussi dans le centre du pays. Une semaine, jour pour jour, après le lancement de l'opération israélo-américaine contre la République islamique. Donald Trump avait exigé hier la capitulation totale des autorités iraniennes. Une hypothèse balayée par le président Massoud Pezeshkian. Aujourd'hui, dans un discours diffusé à la télévision d'État, au Liban aussi, les bombardements se poursuivent. La banlieue sud de la capitale, fief du Hezbollah, est massivement désertée par ses habitants. 300 000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le début des frappes israéliennes contre le mouvement chiite allié de Téhéran, selon une ONG norvégienne. Lors d'une conférence à New York hier, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, heures, a sonné l'alarme. On l'écoute.
I do think this is a moment of grave.
Je pense vraiment que nous traversons en ce moment une période extrêmement périlleuse. Dans toute la région, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés fait état de centaines de milliers de personnes déplacées. L'UNICEF rapporte que plus de 190 enfants ont été tués en une semaine, dont plus de 118 en Iran, 7 au Liban, 3 en Israël et 1 au Koweït. Une fois de plus, les civils doivent être protégés. Point final. Au Liban, la situation est de plus en plus préoccupante. Plus de 100 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées. Environ 100 000 personnes ont trouvé refuge dans des centaines de centres d'accueil. Avant le début du conflit, le Programme alimentaire mondial signalait déjà que 874 000 personnes au Liban manquaient de nourriture.
People in Lebanon are lacking food.
Tom Fletcher, le chef des opérations humanitaires de l'ONU. De son côté, Téhéran continue de viser Israël. Les sirènes d'alerte ont retenti plusieurs fois à Jérusalem ce matin. Et aussi les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite a été ciblée par des tirs. Riyad a mis en garde Téhéran contre toute erreur d'appréciation. Deux missiles balistiques se dirigeant vers la base aérienne du prince Sultan avaient été interceptés. Une base qui accueille des militaires américains. Une vingtaine de drones ont aussi été détruits près du champ pétrolier de Shaïba, près de la frontière avec les Émirats Arabes Unis. Comme les autres monarchies du Golfe, Bahreïn fait face aussi à des attaques quotidiennes de l'Iran. Plus de 200 en une semaine et le quotidien des habitants est désormais marqué par les sirènes déclenchées au début et à la fin de chaque alerte. Mais la situation de Bahreïn diffère de celle de ses voisins. Envoyé spécial de RFI dans le Golfe, Guilhem Delteil.
Des pays de la rive sud du Golfe arabo-persique, Bahreïn est le seul à avoir une population majoritairement chiite. Une communauté qui s'estime souvent mal représentée dans les institutions du pays dirigée par une monarchie sunnite et une partie des dirigeants de l'opposition bahreïnienne est en exil en Iran. Depuis une semaine, la population soutient majoritairement l'effort national. Mais certains bahreïniens ont marqué le deuil après la mort du guide suprême iranien dans les frappes israélo-américaines samedi. Pendant deux jours, de petites manifestations ont eu lieu. Les pays de la région ont envoyé des renforts militaires sur place. La dernière fois qu'ils l'avaient fait, c'était en 2011, au moment où l'archipel était secoué par une contestation. Sur le plan économique, Bahreïn est aussi fragile. Son fonds souverain est moins doté que ceux de ses voisins, 18 milliards de dollars d'actifs contre 450 pour le Qatar. Sa dette publique approche les 150% du produit intérieur brut. L'agence Fitch a dégradé la note du pays la semaine dernière. Le pays risque donc de souffrir encore plus des répercussions économiques du conflit. Guilhem Deltaï, Dubaï, RFI.
Et aux Émirats Arabes Unis, les vols à Dubaï reprennent peu à peu après une suspension du trafic ce matin due à l'interception d'un missile au-dessus de l'aéroport le plus fréquenté du monde pour ce qui concerne le trafic international. En pleine guerre en Iran, Donald Trump reçoit plusieurs alliés d'Amérique latine en Floride. 12 dirigeants du continent sont conviés. Ses proches alliés font le déplacement, comme son homologue argentin Javier Milei ou le dirigeant équatorien Daniel Noboa. En revanche, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le brésilien Lula, tous deux de gauche, manqueront à l'appel. En Guinée, 40 partis politiques dont les trois principales formations d'opposition ont été dissous par décret la nuit dernière, moins de deux mois après l'intronisation du président Mamadi Doumbouya. Le décret pris par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ordonne la dissolution des partis pour manquement à leurs obligations selon le texte qui leur retire également le contrôle de leurs ressources. Nous y reviendrons plus en détail dans Afrique Midi. Du sport à présent et du rugby, le 15 de France dispute son quatrième match dans le tournoi Destination et les Bleus vont jouer en Écosse aujourd'hui après leurs trois victoires consécutives. Un match charnière sur la pelouse de Murrayfield qui pourrait leur permettre de s'ouvrir définitivement la route vers la victoire dans la compétition, voire un grand chelem, leur objectif assumé. Cédric de Oliveira.
Cet hymne mythique, Antoine Dupont et ses partenaires ont pris l'habitude de l'entendre. Flowers of Scotland, repris à l'unisson par 67 000 fans frénétiques, est généralement le prélude de batailles mémorables. Alors le capitaine tricolore, qui a déjà perdu plusieurs fois à Édimbourg, se méfie de ce rendez-vous face à l'Écosse.
On ne sait combien les déplacements ici sont difficiles. On n'a pas besoin de parler de la qualité de l'équipe d'Écosse. Et aujourd'hui, on peut mieux appréhender ce genre de match pour pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé et qui nous ont coûté cher.
Les Bleus ont déjà perdu le tournoi en Écosse, mais cette année, quand on regarde leur performance actuelle, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter a priori. 3 victoires consécutives et 18 essais inscrits, cette génération ambitieuse laisse peu d'espace à ses adversaires. C'est donc le 15 de France du sélectionneur Fabien Galthié qui semble avoir lui-même les clés de son destin dans la compétition.
Dans le tournoi des nations, c'est chaque défi qui s'annonce devient le plus difficile en fait. Et c'est pour ça que cette compétition est incroyablement belle. On a l'impression que tout est remis en question à chaque nouvelle journée. C'est-à-dire que là, clairement, ils peuvent gagner le tournoi. On peut gagner le tournoi aussi.
Alors langue de bois ou vraie prudence, si le 15 de France se manque, ce sera quoi qu'il arrive une déception avant de retrouver l'Angleterre la semaine prochaine pour le dernier match du tournoi.
Écosse-France sera à 14h10, temps universel. Et puis poursuivre tous les développements de la guerre au Proche et Moyen-Orient, rendez-vous sur notre site rfi.fr.
Ce samedi sur RFI, la marche du monde avec Valérie.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle expérimentation radiophonique qui nous emmène aujourd'hui au gymnase de Conches-en-Ouche. Vous me direz, mais qu'est-ce que vous allez faire dans le gymnase de Conches-en-Ouche? Eh bien, nous sommes présents parce que c'est la Pop and Geek, 4e édition, l'occasion de parler de cette pop culture, de cette geek culture. Et pour réaliser cette émission en direct et en live, on s'est équipé de la meilleure des équipes, à savoir Damien qui sera à la question et à la réalisation. Et puis, comme toute grande émission qui ont leurs intervenants, leurs experts, nous avons également un expert avec nous, Jacob. Bonjour Jacob. Alors, bien dans le micro, bien entendu.
Bonjour JC.
Voilà. Alors Jacob, toi, t'es arrivé. Alors, t'es expert Pokémon, t'es expert console de jeu. Et puis, tout simplement, on avait envie de faire de la radio ensemble.
Oui, c'est vrai, JC. Après, bon, mes capacités ne sont pas aussi grandes.
Ouais, on peut le dire aux auditeurs, ils s'en rendront pas compte, Jacob. T'inquiète pas pour ça. T'as fait le tour sur le Pop and Geek. Qu'est-ce qui t'a marqué sur ton premier tour de visite?
Sur mon premier tour de visite, j'ai remarqué que c'est une convention geek, qu'il y a beaucoup de cosplay par exemple, qu'il y a beaucoup de ventes sur des produits nichés geek. Ça, bon, je m'y attendais. Mais aussi quelques œuvres artistiques plutôt impressionnantes, genre des tableaux qui sont basés sur la plupart du temps des mangas à succès. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait un peu...
Qui t'a interpellé en arrivant.
Oui, bien sûr.
Eh bien, super. Bonne ambiance, on vous dit, The Place to Be, c'est ce samedi, ce dimanche, la Pop and Geek au gymnase de Conches. Pour ouvrir cette émission, je suis avec Yasmine, une des porteuses de ce projet, dès la première édition d'ailleurs, une spécialiste de cette geek culture. Bonjour, comment vas-tu?
Bonjour JC, ça va, merci, bonjour à tous.
Alors, sur ce projet Pop and Geek, c'est la 4e édition, 4e année.
Oui.
C'est un des événements que vous coportez avec l'association Gamer.
Gamer, exactement.
En fait. La deuxième, c'est une rencontre autour du rétro gaming.
Vraiment du rétro gaming et des cartes à jouer, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Voilà.
Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se dit, vas-y, on va investir le gymnase et on va créer un événement de cette dimension, parce que c'est assez énorme quand même.
Eh bien nous, en fait, à la base, on est collectionneurs, donc mon mari et moi qui organisons. Mon mari, lui, ça va être tout ce qui est jeux vidéo, rétro gaming. Et moi, ça va être tout ce qui est accès vieux jouets vintage. Voilà, donc on est collectionneurs passionnés. On a une boutique aussi à côté. Et du coup, voilà, faire un événement, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur.
C'est aller au-delà aussi. Puis c'est rencontrer du monde. On se rend compte qu'il y a une vraie communauté autour de ces questions. On va dire geek, si tu me permets. T'as le droit de me reprendre quand je dis des bêtises.
Non, c'est ça, c'est pop culture en général. Parce que geek, c'est vrai que les gens, quand ils entendent geek, c'est vraiment le mec derrière son PC avec ses lunettes qui sort pas de sa chambre. Et non, geek, ça, c'est vraiment c'est tout un ensemble, quoi. Ça va être des fans de cinéma, de pop culture, de jeux vidéo. Enfin, c'est vraiment tout. Voilà.
Elle est quand même ancrée dans une temporalité quand même. C'est là on sent, alors pareil, une fois de plus tu dis quand je dis des bêtises, mais moi je me sens dans les années 90-2000 quoi.
C'est ce qu'on a voulu axer.
C'est vraiment sur ces deux décennies là.
Entre 80 à fin 90, donc début 2000, qui touche plusieurs générations. Du coup les personnes, les parents qui ont une quarantaine d'années maintenant et leurs enfants qui ont une quinzaine d'années, qui sont replongés dedans aussi avec le Pokémon, tout ça, des trucs intergénérationnels.
Et puis oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de parents avec leurs enfants, en fait. C'est ça qui est sympa aussi.
Ouais, carrément. Et puis ils sont contents de montrer ce qu'ils avaient quand ils étaient petits, les consoles auxquelles ils jouaient, qui n'existent plus forcément maintenant. Ça, et les enfants à côté qui sont contents aussi de montrer les mangas qu'ils connaissent. Voilà, ça touche un peu tout le monde.
Il y a aussi toute une partie cosplay. Alors on va le dire, tu sais, quand on dit que c'est intergénérationnel, t'as ta fille juste à côté qui est en train de te taper sur l'épaule.
Exactement.
Elle veut quelque chose. Alors c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que tu veux, ma grande?
Ben j'ai faim.
Ah bah oui, bah elle a faim aussi, Yasmine. Elle a faim, t'es marrante aussi.
Elle a perdu son ticket, voilà.
Et elle a perdu son ticket.
Et ben tu vas avec Coralie chercher à manger. Bye Coco. Bye Coco.
Ben voilà. Demande à manger, ils vont te donner à manger. T'inquiète pas, ma grande. Et ben voilà. C'est aussi ça la joie des organisations en famille, en fait.
Exactement.
C'est ça. Jacob, si tu veux rajouter quelque chose, t'hésite surtout pas, hein, parce que là on est en train de papoter, mais bien entendu, tu peux toi-même questionner.
Actuellement, je n'ai rien à rajouter parce que vous avez été parfait, vous avez parfaitement dit comment pourrait se résumer la situation.
Eh ben super, merci. Oui, sympa en plus notre
merci,
consultant. Donc le programme, on va revenir un petit peu sur le programme parce que c'est aujourd'hui et demain sur ce gymnase de Conches. On le voit, il y a des stands alors autour effectivement de cette pop culture. Il y a de l'échange de cartes Pokémon. Il y a des œuvres d'art comme le disait aussi bien Jacob tout à l'heure qui sont présentes sur place. Oui. Il y a des démonstrations aussi de jeux vidéo. Là juste en face, on a Mordek qui est un dingo.
Oui, Mordek Drums, il peut nous dire un petit mot.
Mais il est prévu après, on l'a tout à l'heure au micro.
Super.
Mais voilà, des dingos aussi du jeu vidéo qui seront présents. Et il y a aussi deux invités d'honneur, un aujourd'hui et un demain. En quelques mots, l'invité d'honneur aujourd'hui, c'est Laure Guibert. Qui, quoi, qu'est-ce, comment, pourquoi?
Alors, Laure Guibert, parce que ça touche... notre génération des quarantenaires, on va dire. Donc c'est une actrice de L'Aîné et les Garçons, donc du Club Dorothée, les Club AB, tout ça. AB Productions, qui a également fait Les Mystères de l'Amour, Les Miracles de l'Amour. Et du coup, vu que ça touche la culture des années 90, on va dire, c'est important qu'on... Tous les ans, voilà, on aura un invité qui sera axé dans les séries AB, en fait. Voilà.
D'accord. Et puis demain, ça va être Geneviève Dohang, qui est
comédienne de doublage, qui fait les voix françaises des jeux vidéo et séries un peu à succès. Elle a fait beaucoup de jeux vidéo et de séries connues.
Et il y a aussi sur la scène des conférences, des discussions, des échanges. En fait, il va se passer tout un tas de choses. Globalement, c'est pour faciliter les échanges entre les passionnés, quoi. C'est
oui,
ça l'idée,
c'est ça.
Quoi.
Ouais,
si on se retrouve entre passionnés, on prend le gymnase, on laisse le short à la maison quand même, parce qu'il y a pas mal de cosplay aussi.
Il y a beaucoup de cosplay, ouais, ça c'est cool. Cette année, on est un peu mal tombé parce qu'il y a la Coupe de France de cosplay le même week-end. Mais on a quand même beaucoup de cosplayers.
Ah oui, il y a une Coupe de France de cosplay ce week-end.
Ouais.
Elle se déroule où?
C'est au Havre.
Ah oui, en plus, c'est pas loin. Quoi.
C'est un autre événement. Je fais un peu de la pub aussi. Du coup, la Japan NorthCon. Et du coup, il y a la Coupe de France. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, mais il y a une Coupe de cosplay là-bas. Donc, il y a beaucoup de cosplayers qui sont partis. Mais du coup, on en a quand même beaucoup. Donc, c'est sympa, c'est cool. Ils ont quand même joué le jeu.
Donc entre Mario Kart, entre des quiz musicaux, entre des concerts de générique pop, de générique de cette culture pop, entre des rencontres avec les stars de l'époque 90-2000, toi, Yasmine, et ça on veut savoir toi, vers quel stand, vers quel endroit toi tu te sens le plus à l'aise ou t'évolues le plus? T'avais dit tout à l'heure pas forcément les jeux vidéo.
Non, mais... bah moi ça va être vraiment donc on a des stands de collectionneurs et vendeurs aussi pro. Tout ce qui est vraiment les vieux jouets, moi c'est, ouais. Ça me passionne.
Ah ouais, c'est vraiment...
les Tamagotchi, les Popples, c'est des peluches qu'on avait quand on était petit, des choses comme ça. Les vieux jeux de société, tout ça, moi ça me passionne.
Parce que ces Popples, ça a complètement disparu du paysage et pourtant c'était tellement rigolo.
Ah bah ouais, non mais totalement, moi j'adore, j'en ai plein. Et là il y en a sur la convention aussi. Donc c'est top. Et tous les petits, les petites babies, les tétines qu'on avait accrochées autour du cou, toutes ces choses-là, j'adore. Voilà.
On le rappelle, la Pop & Geek, c'est ce samedi, c'est ce dimanche, c'est au gymnase de Conches. La participation à l'entrée, Yasmine.
C'est 5 euros, gratuit pour les moins de 6 ans, et un tarif PMR à 4 euros. Et on a aussi une tombola, on fait une grosse tombola, les fonds vont pour l'association, les tickets sont à 3 euros, il y a énormément de lots à gagner.
Eh ben merci beaucoup Yasmine d'être venue nous parler de ce festival Pop & Geek porté par l'association Gamer. Et là vous êtes à Donf. C'est quoi la préoccupation là tout de suite là? Là on va quitter l'interview, ça va être quoi ta mission?
Là je vais recourir partout pour voir si les invités ont tous eu leur ticket pour manger, parce qu'on me demande pour manger depuis tout à l'heure. Et voilà,
c'est ça, pendant que t'étais en plateau t'avais des messages, t'avais des trucs, c'est ça.
Après moi je tourne un petit peu partout en fait, je suis un peu je vais voir à la billetterie si tout se passe bien, c'est le principal. Aux photos aussi, aux photocalls avec les guests, et après moi je tourne un peu partout, je me promène, voilà.
Joyeuse promenade à toi alors.
Merci,
Yasmine,
avec plaisir,
à bientôt. Nous on va poursuivre. Est-ce qu'on se ferait pas un tout petit extrait musical de cette pop culture? Damien qui a préparé la programmation musicale, il a dit attends, j'ai un medley, je te raconte pas, j'en ai pour 2 heures si tu veux. J'ai dit, peut-être pas 2 heures, mais on va peut-être s'en écouter un petit extrait, le temps d'inviter Mordek Drum à venir nous rejoindre. Voilà, vous êtes toujours en direct, en live et en public avec nous à la Pop & Geek. Nous avons Mordek Drum avec nous au micro. Et en fait, quand j'ai été le chercher, il m'a dit « Ah non, ça c'est Sonic tout à l'heure. Il reconnaît par cœur tous les sons des jeux vidéo, c'est ça ?» Alors attends, ouais, on va ouvrir. C'est bon.
C'est assez facile. En même temps, Sonic, c'est un grand classique, quoi, tu vois. C'était pas trop dur.
Alors Mordek Drum, féru de jeux vidéo,
oui.
Musicien,
oui.
Et d'un seul coup tu t'es dit pourquoi bêtement faire d'un côté du jeu vidéo et de l'autre de la musique. Tu t'es dit je vais adapter ma batterie électronique pour en faire un gameplay, une manette, en fait.
Ouais, hein. C'est ça.
C'est ça. Et depuis tu ne cesses de jouer avec ta batterie, c'est ça l'idée?
C'est ça l'idée, c'est exactement ça, oui, je joue aux jeux vidéo avec ma batterie, ouais. Alors suivant les cas, si c'est FPS... C'est-à-dire, vu à la première personne, c'est souris-batterie. Et si c'est des jeux comme Rocket League, qui est un jeu de voiture où on fait du foot, ou Street Fighter, c'est...
T'as un jeu de voiture où on fait du foot. Ça y est, tu m'as perdu, là. J'y crois pas, là. Jeu de voiture où je fais du foot, normal.
Ouais, c'est ça.
C'est ça l'idée, ouais.
Tu vois,
et donc là, tu joues qu'à la batterie?
Que batterie, ouais, pas de souris.
D'accord. Ça, alors, hormis le délire de se dire un matin, allez, je vire la manette et je fais encore plus fort, ça permet quoi, en fait, de jouer en batterie
Ça permet rien.
Ça permet
rien. Hormis le délire, ça, c'était pas meilleur, ça te fait pas travailler la batterie, ça, non, c'est juste pour le truc. J'ai commencé en me disant, tiens, est-ce qu'on peut le faire? Et puis après, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut avoir des résultats? Puis après, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut changer de jeu? Tiens, si on faisait encore autrement? Et en fait, c'est comme ça que je passe de jeu en jeu. Mais non, t'es pas meilleur, c'est vachement plus dur. Et malheureusement, ça fait pas travailler la batterie.
Alors, il y a toute une communauté qui te suit quand même, mine de rien, dans ce délire.
Il y a beaucoup de gens qui me suivent dans ce délire, dans cette idée à la con, comme on en a déjà parlé. Il y a pas mal de gens, Et puis, je suis assez content d'être là aujourd'hui parce que c'est une occasion aussi de faire tester les gens. Donc, je peux leur faire essayer Street Fighter ou d'autres jeux avec la batterie pour qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile. Ouais.
C'est même carrément n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de rythmique en fait. La rythmique, non. C'est celle du jeu en fait.
Il n'y a aucune rythmique, ça ne fait pas de morceaux. Bien qu'encore Street Fighter, il commence à y avoir des trucs qui s'en rapprochent. J'ai déjà des gens de la communauté qui m'ont dit attends, on va record tes parties de batterie, on va essayer d'en faire un album et tout. Enfin, ça pourrait être assez marrant, mais non, c'est quand même pas très rythmique.
Attends, ça veut dire que dans la communauté, il y a des mecs assez dingos pour dire « Vas-y, on récupère tes lignes de batterie quand tu joues à Street Fighter et on va essayer de faire un morceau. »
C'est ça. Est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas, mais pour l'instant, c'est en discussion, ouais.
Est-ce qu'on est en train de se dire que dans cette communauté, on vient chercher la dinguerie d'après? On vient chercher la folie juste qui succède à la précédente?
Ben c'est ça, et c'est ce qui est hyper intéressant dans la communauté de la pop culture, du gaming et tout, c'est qu'il y a toujours des gens qui ont des nouvelles idées, qui veulent un peu aller plus loin, voir ce qu'on peut faire technologiquement et tout, et je trouve ça vraiment super.
J'imagine qu'il y a une adaptation technique également qui est nécessaire quand on adapte la batterie à un jeu vidéo. Ouais, ouais. Merci de finir mes phrases.
Non,
j'imagine qu'il y a une adaptation technique aussi qui doit être faite parce qu'elle n'existe pas en fait, cette adaptation technique.
Non,
il faut l'inventer.
Alors l'inventer, en fait, moi j'ai juste regardé ce qui se faisait parce que moi c'est une batterie électronique donc ça transforme les notes MIDI en touches du clavier. Et j'ai juste regardé s'il y avait un logiciel qui permettait de faire ça et j'ai pris le logiciel, j'ai détourné en fait la fonction première du logiciel qui lui servait à envoyer une touche du clavier pour envoyer une note MIDI. Et moi j'ai juste inversé.
Et t'as fait l'inverse.
J'ai fait l'inverse, ouais.
C'est ça, et t'as adapté techniquement. Il y a d'autres gens qui sont mis du coup maintenant à jouer avec des instruments de musique. Bon. A priori plutôt la batterie, mais est-ce que vous allez monter un groupe de joueurs de jeux vidéo?
Alors, j'ai pas encore croisé des gens. Beaucoup de gens m'en ont parlé, m'ont dit comment tu fais et tout, et donc j'explique. Hein, j'ai fait des vidéos tuto pour expliquer comment je faisais. Mais en réalité, il faut savoir que dans la communauté du gaming, des batteurs, j'en ai pas croisé, mais il y a plein de cas en fait. Il y a une nana qui a fait Elden Ring sur un tapis de danse. Tu vois les tapis de danse.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a même un mec qui joue avec des bananes. Il a mis des triggers dans les bananes et il tape sur les bananes, il joue. Donc en fait, il y a eu plein de trucs. Alors moi, je l'ai juste fait avec un instrument de musique, mais en réalité, il y a plein de façons de jouer différentes aux jeux vidéo.
Ça laisse rêveur Jacob, parce que c'est un spécialiste des jeux vidéo, des consoles et compagnie. Bah, c'est vrai, Jacob, hein, t'es quand même un peu spécialiste de tout ça. Ça t'est déjà venu à l'idée, toi, de jouer avec des objets autres que la manette?
Ça m'est déjà venu à l'idée, mais je n'ai pas abouti parce que j'ai du temps, oui, c'est sûr, mais je n'ai pas ce temps. Je préfère me rester sur des choses classiques parce que j'ai du mal à m'adapter au changement.
D'accord, ouais. Et alors là, en termes de changement, on a quand même un certain niveau là. Hein.
Bah, t'es obligé. C'est vrai que quand t'as l'habitude de jouer manette, par exemple, rien que passer clavier-souris, c'est compliqué. Donc, batterie, oui, ça m'a demandé un paquet d'heures d'entraînement et de tryhard. Sur chaque jeu d'ailleurs, à chaque fois que je change de jeu, je suis obligé de retryhard.
Aujourd'hui, sur l'événement et sur d'autres événements, t'es un peu en guest avec ce bug dans la matrice là. T'es souvent en guest. Là aujourd'hui, tu proposes à des gens d'essayer les jeux sur batterie.
Oui.
C'est ça. Ou même d'aller défier des joueurs avec la batterie, quoi.
Ouais. Là, ce matin, j'ai fait du Street Fighter 6. Donc, je proposais aux gens de faire des combats de Street Fighter 6. Cet après-midi, je vais être en live sur du Fortnite. On va jouer ensemble à Fortnite et on va.
Ça, c'est ton jeu de prédilection, non, Fortnite?
C'est mon jeu de départ, ouais. C'est le jeu sur lequel j'ai commencé. Alors, pour tout te dire, j'ai commencé sur Fortnite parce que moi, comme je suis musicien, j'étais sur Mac. avant de commencer à m'acheter un PC gaming, je me suis dit, ah, je vais quand même voir si j'arrive à faire ce truc-là. J'ai pris le vieux PC de mes parents et le seul jeu qui tournait dessus, c'était Fortnite, en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé sur Fortnite. Mais ouais, cet après-midi, on va faire un peu de Fortnite. Et ce matin, Street Fighter et 25 parties, 2 défaites.
Ah ouais.
Ouais, je les ai un peu lavés. Parce qu'on est gamer, mais tu vois, quand même, on a un peu quand même une fierté de,